France Inter. Amélie Perrier. Le 6-9.
Est-ce un coup d'État ou un nouveau sursaut de la révolution ? En Tunisie, depuis une semaine, le président Kaïs Saïed a repris tous les pouvoirs. Il a limogé le Premier ministre, suspendu les travaux du Parlement pour un mois et levé l'immunité parlementaire de tous les députés. Voilà comment le chef de l'État a voulu mettre fin au bras de fer avec le parti Ennahda, les islamistes majoritaires au Parlement. Un bras de fer qui paralyse la Tunisie au pire moment. Pour tenter de comprendre ce qui se passe, trois invités aujourd'hui en direct de Tunisie. On accueille d'abord Chenaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes activiste féministe et journaliste. Je voudrais aussi dire bonjour à Harlem Belhadj.
Bonjour.
Grande voix militante bonjour. Pour la démocratie, mais aussi pédopsychiatre, secrétaire général du syndicat des médecins. Et bonjour aussi à Salwa Amrouni.
Bonjour.
Professeur de droit public à l'Université de Carthage, président de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Salwa Amrouni, je voudrais débuter avec vous votre analyse de constitutionnaliste. Le président Kaïs Saïed a-t-il fait un coup d'État ? Est-ce qu'il a brisé la Constitution ?
Alors, briser la Constitution, peut-être c'est un terme très très fort. Est-ce qu'il a fait un coup d'État à sa demande ou ça exige qu'on définisse d'abord qu'est-ce qu'un coup d'État ? Et je pense que jusque-là, on peut dire déjà que ce n'est pas un coup d'État. Pourquoi ? Parce que le coup d'État, c'est défini. Hein. Nous avons même un engagement international avec la charte africaine dans ce sens. C'est lorsqu'on prend le pouvoir, où on exige ou on veut rester au pouvoir au moment des élections, lorsqu'on est extérieur au pouvoir ou on veut accéder au pouvoir, et lorsqu'on suspend totalement et on laisse les règles constitutionnelles et on se substitue à ces règles, d'autres règles pour rester au pouvoir. Bien sûr que ce qui s'est passé n'est pas tout à fait conforme à la Constitution. Pourquoi ? Parce que c'est un acte où ce sont des mesures qui ont été prises en vertu de l'article 80. Et déjà, si nous partons de l'article 80, c'est que nous sommes dans la Constitution. Et si le président de la République a fait recours à l'article 80, c'est qu'il a annoncé déjà sa volonté de rester dans la Constitution, même si c'est un état d'exception. L'état d'exception, finalement, c'est quoi ? C'est de mettre entre parenthèses les règles relatives au fonctionnement normal de la situation, de faire recours à certaines règles spécifiques, exceptionnelles, parce que la situation est exceptionnelle, pendant un moment donné et retourner à la normale.
Salwa Amrouni, il y avait quand même un blocage des institutions. Les trois têtes du pouvoir refusaient de collaborer. Le président de la République, Kaïs Saïed, le premier ministre, Hichem Mechichi, et le président de l'Assemblée, Rached Ranouchi, le patron des Ennahda. Il y avait un blocage, il y avait un problème institutionnel.
Exactement. Il y avait un dysfonctionnement total des institutions étatiques, une situation économique et sociale qui était urgente et qui était extrêmement grave.
On va y revenir, effectivement. Oui.
Voilà. Et donc, le recours en lui-même, le fait de penser à un état d'exception, c'est légitime. Maintenant, est-ce que le président a respecté toutes les conditions de l'article 80 ou pas ? Non. Non aussi, parce que je le dis déjà en gros, parce que l'esprit même de l'article 80... lorsqu'il y a un danger, les trois pouvoirs travaillent ensemble pour repousser ce danger, pour le retour du fonctionnement normal. Or, ce qui s'est passé en Tunisie, l'idée finalement, c'est que ce danger et ce problème provient précisément des pouvoirs eux-mêmes. Oui. Donc, si vous voulez, un peu l'article 80 ou l'esprit de l'article 80 a été un peu perverti et qu'il fallait débloquer ou sortir un peu de ce cercle vicieux parce que la Constitution ne permettait pas autre chose.
Salwa Amrouni, il faut préciser que le président Kaïs Saïed, comme vous, c'est un constitutionnaliste, hein, c'est un prof de droit. Il n'a jamais caché quand même son hostilité à la démocratie représentative. Lui, ce qu'il prône, c'est la démocratie directe. Il est en train de mettre en œuvre en ce moment.
Exactement. Alors oui, je ne sais pas s'il est en train de la mettre en œuvre ou pas, parce qu'on attend aussi les prochaines étapes. Mais c'est vrai que dans son projet, entre guillemets, c'est le refus des partis politiques, c'est le refus de la démocratie représentative, et il considère que l'humanité doit dépasser cela. Nous sommes tous conscients, partout dans le monde, on discute des limites de la démocratie représentative, mais c'est la proposition qui pose problème. S'il n'y a pas de démocratie représentative, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Est-ce qu'on va réinventer la roue ? C'est ça la question. Je pense que C'est à ce niveau-là qu'il faut discuter peut-être du projet présidentiel.
Et ce qui est très étonnant, vu de France pour nous hein, en ce moment, ce qui se passe en Tunisie, c'est que a priori, ce coup de force, il est très populaire. Enda Chenaoui, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, vous êtes journaliste. Le président Kais Saied, malgré ce coup de force, eh bien, il reste très populaire hein, auprès de la population et notamment auprès des jeunes.
Il a...
Ah, Enda Chenaoui, on vous a perdu. Est-ce que vous nous entendez, Enda Chenaoui? Salwa Amrouni, peut-être qu'on peut vous entendre là-dessus, sur ce côté très populaire hein, du président Kais Saied.
Oui, ça, il faut prendre ça en considération. Pourquoi? Parce que les Tunisiens sont arrivés au point de ne plus vouloir cette assemblée, de ne plus vouloir ces gouvernants-là. Et les Tunisiens, ça fait 10 ans qu'ils ont sacrifié plusieurs choses, en fait, pour la liberté, pour l'égalité, pour la dignité. Et le parti majoritaire au pouvoir a tout fait pour que les Tunisiens n'arrivent pas à vivre dans une réelle démocratie. Ça, il faut le dire. Hein. On n'était pas dans une réelle démocratie en Tunisie, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Et ceux qui étaient au pouvoir...
Vous parlez des Nahdas, hein, vous parlez des islamistes et des Nahdas.
Des Nahdas essentiellement, et aussi tous ceux qui ont gouverné avec eux, hein, même maintenant, parce que Nahda, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? C'est elle qui a commencé par la violation de la Constitution, en évitant d'avoir une cour constitutionnelle indépendante, en refusant de gouverner elle-même, alors même qu'elle gagnait les élections, en introduisant ou en faisant des menaces sur les juges pour avoir des juges à sa merci, ouais. Ainsi de suite. Donc, c'est important de voir quand même qu'on n'était pas dans une réelle démocratie et qu'on n'était pas surtout dans un état de droit. Et c'est ça qui a fait que les gens ne veulent plus en entendre parler.
On a rétabli la ligne, je crois, avec Enda Chenaoui. Vous nous entendez ? Enda Chenaoui, est-ce que vous nous entendez ?
Oui. Oui, là, je vous entends. Oui.
Racontez-nous, la jeunesse qui est toujours derrière le président Saied, malgré ce coup de force. Ah là là, on a un problème de ligne. Je ne sais pas si vous nous entendez.
En fait, donc, ce que je disais, en fait, avant cette coupure.
Oui.
Ah, merde. Okay.
Non, je vous en prie, on vous entend.
Je vous entends. Hein.
On vous entend, allez-y.
Oui, moi, je vous entends. Ok, très bien. Bah, oui, je disais, en fait, voilà, Kais Saied, en fait, il a regagné sa popularité grâce à ce coup de force. Les gens, en fait... Et les jeunes surtout sont très contents du départ du parti islamiste Nahda, mais surtout du départ du Parlement du gouvernement. Aujourd'hui, on inspire en fait justement comme tous les Tunisiens à une nouvelle démocratie, une réelle démocratie, et non pas une démocratie de compromis politique dont entre partis politiques au sein du Parlement. Voilà.
Mais une démocratie, ça peut être aussi un président qui dit je prends tous les pouvoirs.
Ça s'est coupé encore une fois.
Non, il y a un petit décalage.
Oui, il a pris tous les pouvoirs, mais en même temps, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte, en fait, du dialogue avec toute la société civile, avec les partis, les institutions, enfin, nationales, etc. Donc, il est dans le dialogue, il est dans l'écoute. Pour le moment, on n'est pas inquiets, nous, en tant que Tunisiens, parce que il a pris tous les pouvoirs dans ses mains. Les signes, en fait, envoyés à toute la société civile, à toute la population sont plus ou moins positives et nous attendons les étapes suivantes. Voilà.
Je voudrais vous entendre également, docteur Al-Harlem Belhadj, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes également secrétaire général du syndicat des médecins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise de la Covid, la crise politique et la crise économique sont intimement liées. Est-ce que vous pouvez, vous, docteur, nous décrire le chaos sanitaire en ce moment que traverse la Tunisie? Comment ça se passe dans les hôpitaux?
Bon, la crise sanitaire était réellement une crise assez profonde en Tunisie parce qu'elle venait sur un terrain où la santé publique en particulier était en crise depuis des années. Et que ça fait longtemps qu'on a demandé une réforme justement du système de santé et ça a tardé à venir. Et donc avec une crise telle que vécue récemment, donc les choses étaient extrêmement difficiles et extrêmement pénibles. La crise politique a beaucoup impacté la crise sanitaire également.
Oui, les deux sont liés.
Parce que Oui, exactement, parce qu'il n'y avait pas un consensus là-dessus et parce que au lieu que tous les efforts convergent vers le même objectif et le même but, sauver les Tunisiens, ça n'a pas été le cas et fréquemment les conflits dans les trois présidences, ce qu'on appelle nous les trois présidences, donc a beaucoup impacté justement la rapidité des mesures et l'efficacité des mesures. La situation économique également, donc tout ça s'est conjugué pour rendre justement la situation très pénible et très difficile.
Docteur,
bon, on commence à respirer depuis quelques jours et j'espère que ça ira mieux. La crise, bon, le nombre de malades commence à diminuer, les vaccins arrivent et on espère justement voir dans les prochaines semaines une bonne campagne de vaccination et qui peut-être justement aidera, elle aidera certainement donc à mieux juguler la crise sanitaire.
Docteur Belhadj, on a été bouleversé ici en France par les images de ce directeur d'hôpital à Matheur, c'est au nord-ouest de la Tunisie. Il s'effondre en larmes parce qu'il n'y a plus d'oxygène alors qu'il a 40 patients qui ont besoin d'oxygène. Ça, c'était la situation dans tous les hôpitaux à peu près de Tunisie.
Oui, la crise était très profonde, donc donc la crise d'oxygène, c'était en premier lieu, donc les lits d'oxygène, les lits de réa, le manque de ces lits-là, et puis la crise de l'oxygène, c'était les deux manifestations majeures de la crise, et là, les professionnels de santé ont réellement affronté une situation où ils se sont sentis un peu abandonnés par les politiques qui n'étaient pas à la hauteur, malheureusement, à cause de la crise politique et à cause des blocages institutionnels. Et donc, ça ne pouvait pas continuer, effectivement. Quand on atteint cette profondeur de la crise, cette gravité de la crise, réellement, ça ne pouvait pas continuer. Heureusement, donc, que les professionnels de santé et que malgré toutes les défaillances, donc, le système de santé a pu quand même résister, tant soit peu, face à cette crise.
Donc, 19 000 décès quand même.
C'est le temps.
19 000 décès, premier pays d'Afrique en taux de mortalité selon l'OMS. En fait, c'est tout le système.
Ça aurait pu être encore plus grave vu le nombre de malades et vu l'état des structures sanitaires.
Et justement, ce que vous dites, c'est tout le système de santé publique qui est au bord du gouffre. Il y a un problème également avec les médecins tunisiens qui quittent le pays. 80% des jeunes inscrits à l'Ordre des médecins ont fait une demande de radiation l'an dernier pour partir à l'étranger.
Oui, exactement. Donc c'est un grand, grand problème. Là, c'est la jeunesse tunisienne et l'élite tunisienne, d'une manière générale, qui est en train de quitter parce que justement, il y avait cette crise politique et l'absence de perspective. Donc le quotidien des Tunisiens est devenu tellement difficile avec une absence de perspective, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan qualité de vie, que les gens préfèrent partir. Ça ne touche pas uniquement les médecins, mais en particulier les médecins. Mais ça touche plusieurs secteurs, les ingénieurs, d'autres secteurs aussi sont touchés, mais les médecins tunisiens, c'est réellement, ils sont en train de partir, et ça, le manque du personnel médical et même paramédical lors de la dernière crise, donc, était également un autre défi face à la pandémie.
Et on comprend également l'explosion en ce moment en Tunisie avec la crise économique. Le chômage massif, c'était à la base de la révolution en 2011. Enda Chenaoui, si vous êtes avec nous, ce chômage, il est resté massif, il est structurel en fait en Tunisie. Enda Chenaoui, est-ce que vous nous entendez?
Oui. Ouais. Oui, excusez-moi, la question.
Le chômage est toujours massif en fait en Tunisie et continue de paralyser la jeunesse du pays. Et ça fait partie de cette crise.
Pas seulement le chômage en fait, le chômage, la pauvreté. On est les jeunes dans les régions, ils sont dans la même situation qu'avant, comme si on n'a pas fait une révolution en fait. La même injustice sociale. Il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes. Ils veulent absolument partir. Il y a ceux qui ont de la chance et qui peuvent partir en avion pour trouver des contrats de travail légal en Europe, il y a ceux qui partent en bateau, en fait, et risquent leur vie. Tous les jours, en fait, les jeunes ne pensent qu'à ça, parce que l'État et toute la classe politique tunisienne n'arrive pas à concrétiser ses promesses, qui est en fait de trouver des opportunités de travail, de travailler sur investir en fait dans l'infrastructure, dans le développement et diminuer l'injustice entre les régions, par exemple. Tout ça n'a pas été fait et il n'y a aucun signe, en fait, qui donne un peu d'espoir à ces jeunes-là.
Et sauf, Rachena, oui,
bien sûr, évidemment, oui. Ce que Raïs Saïd essaye de faire, ou peut-être une nouvelle classe politique qui doit émerger, en fait, après 10 ans de la révolution.
Enda Chenaoui, je voudrais vous demander s'il y a un risque de dérive autoritaire. Il y a eu des inquiétudes hier à propos de l'arrestation du député indépendant Yassine Ayari. Est-ce qu'il y a cette crainte-là aujourd'hui d'une dérive autoritaire du président Saïd?
Oui, la crainte, en fait, elle a été toujours là. Il faut rappeler en fait qu'on n'était pas vraiment dans une démocratie, que même la liberté d'expression depuis 2011 n'était pas garantie pour tout le monde. Il fallait toujours en fait rester vigilant et lutter en fait contre les dérives. Les dérives en fait, on en a vu plusieurs depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, on va continuer à rester vigilant. L'arrestation de Yassine Ayari. D'après ce qu'on a compris, en fait, d'après les déclarations officielles, n'est pas lié ou n'a pas été ordonné par Kais Saïd. C'est un ancien procès.
C'est une vieille condamnation de 2018, oui, c'est ça, qu'on fait exécuter aujourd'hui.
Exactement. Et une fois le député n'est plus immunisé, il a été arrêté.
Après, mais quand même.
On peut avoir une lecture politique de cette arrestation. Ce n'est pas on peut pas en fait trancher sur les intentions de Raïs de mettre tout le monde en prison hein, ou ses adversaires politiques en prison parce que justement ses adversaires politiques les plus dangereux au niveau politique sont encore libres et qui sont Rastranouchi par exemple en tête de Nahda et d'autres députés en fait Nahdaoui.
Merci Andaynouchi. J'ai une dernière question pour le docteur Harlem Belhadj. L'urgence aujourd'hui en Tunisie, elle est sanitaire ou elle est démocratique, à votre avis?
En fait, les deux marchent ensemble, on ne peut pas dissocier.
Oui.
Pour bien faire face à la crise sanitaire, comme je l'ai dit, la défaillance des pouvoirs politiques a beaucoup impacté, et la crise économique également. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire face. Et donc, il faut conjuguer aujourd'hui les efforts. Une réforme de la santé, une restructuration du système de santé est absolument indispensable. Il faut que cette crise soit une opportunité aujourd'hui. Et justement, il faut aller de l'avant pour que ce soit fait.
Merci
Par
beaucoup.
Contre, sur le plan politique, ouais. Juste, j'ajouterai un mot.
Oui.
Certes, la crise était importante et que les blocages ont entraîné ce qu'ils ont entraîné aujourd'hui, mais la vigilance reste une priorité pour nous aujourd'hui. Les contre-pouvoirs doivent fonctionner justement pour
On
jouer un
là.
Rôle, un ouais. rôle de contrôle et de proposition. Et il va falloir justement avoir une feuille de route assez rapide pour que les pouvoirs ne restent pas concentrés chez une seule personne.
Merci, merci docteur Harlem Belhadj. On doit s'arrêter là, on est déjà très en retard. Merci à vous trois d'avoir répondu à l'invitation de France Inter. Enda Chenaoui, journaliste et activiste. Harlem Belhadj, pédopsychiatre, secrétaire général du syndicat des médecins. Et Salwa Amrouni, professeur de droit public à l'université de Carthage. Merci encore et bonne journée.